Session d'initiation à la théologie, Rimont, 2 novembre 1989.
Premier pour les membres de la session. Hein? Les frères, vous avez le concile. S'il y a du rab, bon. Donc je dis de la part de toute la communauté un grand salut aux membres de la session, hein, qu'on connaît déjà ou qu'on ne connaît pas. Vous venez pour faire une petite introduction à la théologie. Je fais tout de suite une petite remarque. C'est pas une introduction à la pastorale ou à la catéchèse. Parce que là, ce côté-là, vous risquez d'être très déçus. Si vous voulez venir ici apprendre ce qu'il faut dire et comment il faut le dire à vos enfants, là, vous serez déçus. D'une certaine manière, ici, c'est plutôt la théologie. La théologie, ce sont des soubassements, hein, qui doivent nous aider à être croyants. Et donc, c'est dans cette mesure-là que la théologie va vous aider. Dans la mesure où elle va vous aider à être plus croyants. Et c'est parce que vous serez croyants que vous trouverez les mots et les moyens, hein, d'annoncer et les gestes. Alors, vous voyez, là... La théologie, elle est une introduction pour être plus croyant, et c'est parce que vous serez plus croyant et parce que vous êtes intelligent, vous trouverez les moyens. Donc c'est vraiment une servante. Avant de transmettre, il faut d'une certaine manière vivre. Alors la théologie doit nous aider à vivre. Et c'est dans le sens que c'est d'abord pour vous que nous faisions cette session, même si les frères et sœurs sont un peu nombreux. Et donc, il faut que vous posiez des questions qui vous sont importantes pour comprendre, hein, parce que ce serait dommage qu'on soit bloqué par des questions de vocabulaire. La théologie répond à cette invitation de Saint-Pierre : soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous. Rendre raison de l'espérance qui est en vous. Donc, il faut vivre de cette espérance. Et puis ensuite, rendre raison de cette espérance. C'est-à-dire, devant un monde païen, pour prendre le schéma, quoi, trouver les mots, les explications pour rendre raison de l'espérance qui est en vous. Voilà la théologie. Alors cette session, c'est plus une session d'introduction. On fera avec vous une réflexion théologique sur la révélation, sur les liens entre l'intelligence et la foi. C'est important, si on fait de la théologie, qu'on réfléchisse un peu sur ce que l'intelligence peut dire de la foi. Est-ce que c'est étranger à l'intelligence ? Ou est-ce qu'il y a une harmonie entre les deux? Et enfin, c'est là l'essentiel, le mystère du Christ. Alors, ça va être un marathon. J'espère que vous ne vous y épuiserez pas. Les professeurs changeront, donc ils seront chaque fois nouveaux. Vous savez, il n'y a que vous qui ne changez pas. Alors j'espère que vous tiendrez le coup. Si ça va pas, vous tirez l'alarme et puis vous dites ça va pas, quoi, non ? Mais il faut qu'il y ait cette simplicité, hein. Nous cherchons ensemble à éclairer notre foi. Alors n'ayez pas peur, au contraire, les questions peuvent aider beaucoup. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la révélation. Il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs chemins, et j'ai choisi de prendre celui du concile. J'avais déjà fait ça l'an dernier, peut-être que parmi vous il y en a qui vont doubler. Alors ça vous permettra de prendre un peu de recul à partir du concile, parce qu'il a quand même apporté dans ce domaine une lumière tellement forte et vive et que c'est très intéressant de le suivre. Puis ensuite, c'est qu'on lui fait dire tellement de choses qu'il faut aussi de temps en temps y aller nous-mêmes. Parce que c'est tellement facile de se servir du concile, le concile a dit, et puis en fait, personne n'a été voir, n'est-ce pas ? Alors, faisons l'expérience de ce labeur avec l'Église. Alors, le texte que nous allons prendre, c'est celui sur la parole de Dieu. Alors déjà, il y a un petit problème. Le sujet, c'est la révélation. La constitution dogmatique Dei Verbum, sur la parole de Dieu, au début, elle devait être un texte exclusivement sur la parole de Dieu. Et quand on lit la manière dont les pères ont travaillé, vous savez comment ce que fait le concile, avant d'être réunis, on leur envoie un projet pour partir de quelque chose, puis ce projet est discuté, puis à cause de ces discussions, il revient à la commission, puis la commission revient à l'assemblée, puis on revient à la commission et on revient à l'assemblée. Alors le texte qui était parti était sur la parole de Dieu. Et la première chose que les pères ont dû demander, que ce texte parle de la révélation avant de parler de la parole de Dieu. Vous allez voir que c'est très important. Et le préambule, alors le premier chapitre, j'ai trouvé une traduction qui était plus proche du latin que celle-ci. Alors, je vous l'ai photocopié, le reste, ça suit, c'est moins important. Alors, si vous voulez, nous allons lire ce préambule. Religieusement, à l'écoute de la parole de Dieu et proclamant avec assurance le Saint Concile obéit aux paroles de Saint Jean qui dit: nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alors tout de suite, hein, on ne voit pas très bien quel rapport. Et pourtant, si on regarde dans le détail cette phrase, il y a plusieurs choses qu'il faut souligner. Religieusement, à l'écoute de la parole de Dieu, le Saint-Concile. Vous voyez, le Saint-Concile se soumet. Le Saint-Concile, l'Église, se met religieusement à l'écoute de la parole de Dieu. Ça veut dire, il manifeste et même il témoigne de sa soumission à la parole de Dieu. L'Église ne se met pas au-dessus de la parole de Dieu. L'Église n'est pas maîtresse de la parole de Dieu. Eh bien, bien qu'elle l'écoute, eh bien, elle la proclame avec assurance. Et en ce sens, elle obéit, encore une fois, à la parole de Dieu qui est manifestée dans Saint Jean. Nous vous annonçons la vie éternelle. Voilà. Voilà l'objet de l'annonce. La vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle ? Tout de suite, nous disons, mais oui, c'est ce que nous avons reçu au baptême. Si vous êtes attentif à Saint Jean, la vie éternelle, c'est Dieu. Dieu est la vie. Dans Saint Jean, Dieu est le vivant. Dieu est la vie. Dieu est la lumière. C'est pas étonnant que rentrer en communion avec la vie nous donne la vie. Mais voyez, celui qu'on annonce, c'est la vie éternelle qui était auprès du Père. C'est la vie qui est en Dieu. Et qui nous est apparu ? Voilà l'annonce chrétienne. C'est que la vie qui est en Dieu nous est apparue. Qui est la vie en Dieu ? En lui était la vie, le Verbe. Le verbe, c'est double traduction, hein, verbum, verbe et parole. Le verbe va plus loin que la parole. Le verbe, c'est la conception qu'il y a dans notre âme. Quand je pense, j'ai un verbe. Et ce verbe, je le traduis par une parole. C'est vrai que la parole essaie d'être adéquate au verbe, hein, à la pensée. Elle ne l'est pas toujours. Tout de suite, on voit un dépassement de la parole. C'est le verbe. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Voilà. Vous voyez, celui qui est apparu, qui a été vu, qui a été entendu, voilà celui que nous annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Et moi, ça c'est un passage que je trouve extrêmement important. À écouter tous ensemble la parole, nous nous mettons en communion avec les apôtres, et donc nous sommes en communion les uns avec les autres. Vous voyez, comme quoi la parole de Dieu édifie l'Église. C'est l'écoute de la parole entendue au grand sens du terme. Vous verrez que le Concile n'a pas peur de comparer la parole et l'Eucharistie comme la nourriture, le pain. C'est à l'écoute de la parole que nous rentrons en communion avec les apôtres. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous mettons en communion les uns avec les autres. Donc si vous regardez, l'objet de l'annonce, hein, d'une certaine manière, de toute la constitution, la vie éternelle. Révélée. Hein. La vie éternelle communiquée. La vie éternelle transmise. Cette vie qui nous est apparue, que nous avons entendue. Et que ensuite nous annonçons. Donc, c'est la vie éternelle que nous accueillons, apôtres, et que nous transmettons. C'est la vie éternelle. Voilà la réalité qui est en question. C'est pas un savoir. C'est la vie. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous est apparue, que nous avons vue, entendue, et nous vous l'annonçons pour que vous rentriez en communion avec nous. Et c'est clair, la finalité, ce qui est le terme, ce qui est annoncé, ce qui est proclamé, la vie. Le mode, comment est-ce qu'elle a été transmise, cette vie ? La manifestation, elle nous est apparue. Noël, l'épiphanie, la manifestation. Cette vie, comment s'est-elle communiquée ? Elle s'est manifestée. Comment ? En Jésus-Christ. Et maintenant, ça c'est le mode. La transmission. Et Jean transmet cette vie, comment ? Par un témoignage. Nous vous l'annonçons. Ce que les apôtres ont reçu, ils doivent le transmettre. Et nous-mêmes, en recevant le témoignage, nous entrons dans cette communion. Et si vous regardez bien le terme, hein, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Et pour que vous aussi, vous soyez en communion avec le Père et Jésus-Christ. Qui est notre communion. Voilà ce que dit Saint Jean. Oui. Donc, la révélation, si je veux bien comprendre ce qu'il s'agit, si vous voulez, si vous regardez, si vous voulez, le grand chemin que prend Saint Jean, là, et que prend le Concile au début de son texte, c'est la vie s'est manifestée en Jésus. Nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous l'avons goûté, nous l'avons entendu. C'est pas pour rien que le Concile n'a pas pris au début ce premier verset dans Saint Jean. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons entendu. Parce que de fait, les apôtres, les pères conciliaires, ils ne pouvaient pas prendre cette parole. Hein? C'était Saint Jean qui pouvait le dire, mais pas les pères du Concile. Saint Jean pouvait dire, ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons. Là, il prend le texte, là, ils veulent le dire lui-même. Ils le prennent à leur truc, à leur... à leur compte. Nous vous annonçons, oui. Nous vous annonçons la vie éternelle. Parce que ça, la vie éternelle, qui était auprès du Père, elle s'est manifestée aux Pères de l'Église, qui ont parlé. Elle s'est manifestée à eux. Nous allons voir comment. Le Christ s'est manifesté. Oui. C'est pourquoi, suivant les traces des conciles de Trente et du Vatican, quelles sont les années, mes frères? Le concile de Trente.
1545-1565.
Voilà, 1545-1565, en gros. Et Vatican I, quelle année?
1870.
Je vous dis ça parce que c'est comme ça qu'on règle les problèmes dans les examens. Ça. Oui, donc, suivant les conciles, donc n'allons pas opposer Vatican II avec les autres conciles. Suivant les traces des conciles de Trente, 16e siècle, réponse à la crise protestante, concile de Trente, et du Vatican. Suivant leurs traces, le Concile entend proposer la doctrine authentique sur la révélation divine. Alors là, il parle hein, avec certitude. Et sur sa transmission, voilà, deux choses, la révélation et la transmission. Alors nous allons d'abord regarder la révélation, si on y arrive, on va regarder la transmission. Afin qu'à la proclamation du salut, le monde entier, en entendant, croit, en croyant, espère, en espérant, aime. Vous voyez ? Donc, l'objet de cette constitution, c'est la révélation et sa transmission. La révélation en Jésus, si vous voulez, et sa transmission. Comment s'est-elle transmise ? Comment s'est-elle transmise? Alors, qu'est-ce que la révélation? Voilà le premier chapitre. Chapitre 2, la transmission. Chapitre 3, l'inspiration de l'Écriture, et on prend l'Écriture, l'Ancien et Nouveau Testament, et puis ensuite l'Écriture dans l'Église. Alors, vous voyez, il me semble que le préambule donne bien l'axe. La parole de Dieu va être, vous voyez, elle va être dans le chapitre 2, dans la transmission. La parole de Dieu est seconde. Elle est relative à la révélation. C'est très important parce que si nous voulons lire la parole de Dieu, il faut bien que nous comprenions qu'elle est relative à la révélation. Alors, qu'est-ce que la révélation? Alors, c'est là où il faut se mettre à l'école du Concile. Alors, ce premier chapitre, qui commence avec le numéro 2, la nature est l'objet de la révélation. Donc, d'une certaine manière, qu'est-ce que la révélation? C'est le numéro principal. Tout le reste va d'une certaine manière, du chapitre, va l'expliciter. Il a plu à Dieu, dans sa bonté et sa sagesse, de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté par lequel les hommes ont accès auprès du Père par le Christ
Verbe fait chair dans l'Esprit Saint et sont rendus participants à la nature divine. Vous voyez que le Concile a fait appel, cite Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, un texte que nous connaissons bien parce que nous le disons chaque semaine dans l'office des vêpres et qui est extrêmement important pour nous à propos de ce chapitre 1 sur le mystère du salut, où saint Paul commence comme ça: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Pas oublier que la vie chrétienne est comme une immense action de grâce où on bénit Dieu de nous avoir ainsi jugés dignes de telles bénédictions. Quelles sont-elles, ces bénédictions? Eh bien, saint Paul continue, et il nous a élus, il nous a choisis en lui, avant la création du monde, donc avant même de nous créer, et même de créer le monde, il nous a choisis dans le Christ pour être saint et immaculé en sa présence dans l'amour. Ça, c'est le mystère que nous avons célébré hier. C'est avant même la création, avant même le péché, avant même que l'univers existe, Dieu a voulu, il a ce dessein merveilleux de faire de nous des saints en sa présence dans l'amour, c'est-à-dire des êtres dignes de vivre en sa communion. Alors on aurait la Trinité, là, l'icône de la Trinité de Roubloff. Voilà le mystère de la révélation, hein. C'est Dieu qui nous ouvre sa table, quoi, qui nous invite à sa vie. Alors ça, avant même de nous créer, voilà son dessein. Alors, on ne veut pas dire qu'il a changé d'idée, hein, au cours de la création, qu'il a créé Adam dans un état, puis comme Adam a trompé, il en a fait un autre qui était meilleur. Ça, c'est pas parole de Dieu, dit pas ça. Avant la création du monde, il veut nous faire des êtres saints et immaculés en sa présence. Comment ? En déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils. Avant de nous créer, il a voulu faire de nous des fils. Tel fut le bon plaisir de sa volonté. Hein. Et saint Paul, dans cet hymne, insiste sur cette gratuité. C'est la gratuité, c'est son bon plaisir. C'est le choix de Dieu, c'est l'immense miséricorde. C'est le bon plaisir de sa volonté. C'est pas pour rien que le concile commence plaquit. Il a plu, ça a plu à Dieu. En vertu de quoi? Parce que le bien se communique, hein, dirait saint Thomas. L'amour se communique. L'amour ne peut pas faire autre chose que s'étendre, se communiquer. Comme le feu, il faut qu'il réchauffe, hein. Et bien, il a plu, vous me direz, c'est une nécessité. Si c'est une obligation de son être. Oui, mais en Dieu, hein, il n'y a pas de nécessité. Hein. Tout est amour. Ce n'est pas une nécessité comme nous la connaissons, nous. C'est une nécessité de l'amour. Tel fut le bon plaisir de sa volonté à la louange de gloire de sa grâce. Grâce. Dont il nous a gratifié dans le Fils bien-aimé. En lui, nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon la richesse de sa grâce qu'il a prodiguée en toute sagesse et intelligence. Et là, on cite ce que dit le Concile. Et il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Voilà la grâce du chrétien. C'est qu'il nous a connaître le mystère de sa volonté. Sacramentum voluntatis. le sacrement, le mystère. Le mystère, c'est-à-dire, c'est pas le problème, hein, c'est pas l'incompréhensible au sens l'échec de l'intelligence. C'est cette volonté inouïe, sans mesure, sans fond, hein, que je ne mesurerai jamais. Parce que ça vient d'un dessein insondable de Dieu. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et il nous l'a fait connaître, ce dessein de Dieu de faire de nous des fils, avant de nous créer, quel que soit notre état de pécheur ou non pécheur, par pure gratuité, il nous l'a fait connaître. Terminé, le problème est là. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Quelle est-elle, cette volonté? Je continue, Saint Paul. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui, et il reprend, par avance. C'est par grâce que vous êtes sauvés, dit Saint Paul. C'est pas vos œuvres. Pour le réaliser, quand le temps serait accompli, quel est-il ce dessein? Ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Voilà le dessein de Dieu. Nous rassembler, il est venu rassembler ceux qui étaient dispersés, hein, nous rassembler sous un seul chef, le Christ. Les célestes comme les terrestres. Alors c'est important pour nous de comprendre ça, que la révélation chrétienne, c'est cela. C'est que Dieu nous a fait connaître son dessein. Quel est-il? De nous unir au Christ dans une telle communion que sa vie devient la nôtre. D'une certaine manière. De nous rassembler sous un seul chef, comme les membres d'un seul corps, comme le corps d'une seule tête, le Christ. Vous voyez comme c'est différent. La religion chrétienne, c'est pas la religion de ceux qui ont la vérité. Nous avons la vérité, mais quelle est-elle, cette vérité? La vérité, c'est le Christ, et le Christ, je ne le possède pas. Ce que je sais, c'est le dessein de Dieu de me sauver dans le Christ, et de sauver tous les hommes dans le Christ. Dessein qui est avant la distinction des baptisés, des non-baptisés, des croyants, des non-croyants, des pécheurs et des non-pécheurs. Dessein qui était avant le péché. Dessein de Dieu avant la création. Alors on va voir comment ce qu'il doit se réaliser après le péché. Ça, c'est un autre problème. Oui, mais la révélation, c'est que Dieu a sur tout homme et sur sa créature un unique dessein, c'est d'en faire ses fils. Et pour moi, c'est, enfin, il me semble, on a tout dit là. La grâce du chrétien, c'est de savoir le dessein de Dieu. L'exigence du chrétien, c'est d'annoncer avec assurance cette révélation, ce qu'il sait. Il est dans la nécessité de témoigner de ce dessein qui lui a été révélé, auquel il croit. Mais qui est un dessein qui nous dépasse, qui est un mystère. Alors, vous ne communiquerez pas à vos proches ce mystère. Parce que le mystère, c'est le propre du mystère, il est voilé au monde. Sinon, il n'est plus mystère. mais il est désigné, il est montré. Et c'est là où on voit ce qui est la qualité de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de vivre de ce mystère, ce sacrement à travers les sacrements, hein, et vivre de ce mystère à travers les mystères de notre vie. Eh bien, il est de vivre et d'en témoigner. Vous voyez, comme il me semble que notre vie prend une autre lumière si on la laisse s'éclairer de cette révélation qui nous est faite de ce dessein d'amour de Dieu sur nous. Il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse. Bonté, ça c'est quelque chose d'incompréhensible. La sagesse, tout de suite, il y a une possibilité de rendre raison. L'intelligence peut participer à la sagesse du Créateur. Elle ne peut pas la mesurer. Mais il y a quelque chose à découvrir avec notre sagesse à nous, qui participation à la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté. Ainsi, alors je reprends le texte du Concile, par cette révélation, Dieu invisible, à cause de son immense amour, s'adresse aux hommes comme à des amis et converse avec eux pour les inviter à la communion avec lui et les recevoir. Je n'ai pas assez insisté peut-être, et il faut que je revienne. Mystère de sa volonté par lequel les hommes ont accès auprès du Père par le Christ, Verbe fait chair, dans le Saint-Esprit. Là, on cite le chapitre 2 des Éphésiens. Vous voyez, c'est dans le Christ. La révélation, c'est dans le Christ. La vie de Dieu, Dieu lui-même, parce qu'il s'est fait chair, s'est manifesté. Il a plu à Dieu de se révéler lui-même. Dieu s'est fait homme. Oui, comme tout de suite, la révélation dépasse la parole de Dieu. La révélation, c'est le mystère de l'incarnation. La révélation, c'est le mystère de Dieu fait homme. C'est le mystère de Dieu qui se manifeste, se montre, se fait toucher dans le Verbe fait chair. Et c'est pourquoi on dit ainsi, le Dieu invisible, nul n'a jamais vu Dieu, ce Dieu invisible qui demeure invisible, à cause de son immense amour, on réduplique, s'adresse aux hommes comme à des amis. Jésus est venu planter sa tente au milieu de nous. Il est venu habiter parmi nous. Il est venu demeurer. L'Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Il s'adresse aux hommes comme à des amis. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas comme à des enfants ? Pensez à cette parole, d'ailleurs, on se réfère à Jean 15. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. On ne peut pas se satisfaire de l'enfant. Il faut aller jusqu'à l'ami. Jésus veut que nous soyons des amis, pas simplement des petits-enfants. Parce qu'il veut s'adresser à nous comme à des amis. On disait de Moïse, Exode 33:11, qu'il parlait à Dieu bouche à bouche. Comme un ami. Pour montrer cette intimité, la révélation, c'est Dieu qui se communique comme à un ami. C'est très important ça. Pour converser avec eux, pour les inviter à la communion avec lui et les recevoir. Et ça, c'est formidable comme texte. C'est une invitation de Jésus qui veut s'adresser à nous comme à un ami, qui veut converser avec moi et m'inviter ainsi à la communion avec lui et me recevoir. Vous voyez comme c'est pas, dire comme c'est concret, quoi, comme c'est réaliste, quoi, comme c'est pratique. Le concile, hein, je crois que c'est une de ses grâces, hein, de quitter le langage théologique où on aurait dit simplement le Verbe se fait chair, Dieu se fait connaître aux hommes, point. Hein. Là, on va dire non, on va prendre un langage qui est pris dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Converser avec eux, c'est Baruch, hein, prophète, comme à des amis, exode, hein, pour nous montrer que la révélation, c'est cette initiative d'amour de Dieu qui d'une certaine manière quitte l'invisible, la distance, si vous voulez, rompt la distance de sa transcendance, rompt la distance, hein, pour nous s'adresser à nous et faire de nous ses amis, pour que nous répondions, hein, parce qu'il nous invite à la communion, oui, et nous reçoit. Donc il y a une participation, on a quelque chose à faire, hein. On a quelque chose à faire. Vous voyez, comme tout de suite, ça va être en lien avec l'Eucharistie. Si vous regardez bien, l'Eucharistie, c'est le sacramentum sacramenti, c'est le sacrement du sacrement de salut. On dit ça maintenant dans la liturgie, mystère de la foi, mysterium fidei, mystère de la foi. Quel est-il le mystère de la foi? Le Christ, Dieu, au milieu de nous, nous invitant à sa communion et à participer à sa table, quoi. Hein? Nous recevant à sa table. Mysterium fidei, mystère de la foi. Voilà. Là, vous avez la définition de la révélation chrétienne, hein, si on peut dire ça. Bien pratique, mais vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que il s'agit, recevoir la révélation, c'est recevoir une invitation personnelle. C'est pas savoir, c'est pas la gnose, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait la différence entre le chrétien et les sectes? C'est que le chrétien ne prétend pas savoir, ne prétend pas savoir ce que d'autres ne savent pas. C'est pas un gnostique, gnosis, celui qui a la science. Les autres ne l'ont pas. Venez, je vais vous révéler la science. Non. Je vais vous dire ce que je sais, au sens, c'est-à-dire que nous sommes invités à une rencontre personnelle avec Dieu dans le Christ Jésus. Voilà. Voilà la révélation chrétienne. Nous sommes invités à la communion avec le Christ et à le recevoir. Ceux qui peuvent regarder un peu le latin, hein, vous remarquerez, hein, cette societas, hein, communion, de temps en temps, hein, ça, pour nous ça n'a plus un communion, c'est un terme qui est souvent abstrait, et dans l'écriture c'est un terme extrêmement concret. C'est là une société, une vie commune, hein. Il nous invite à une communion avec lui, à une société, une intimité de société, pas la société civile, immobilière. Bon. voyez, la révélation, c'est le dessein de Dieu communiqué. Et ce dessein, il est un mystère insondable. Mais notre vie chrétienne, elle est là. Notre vie chrétienne, elle est dans la communion à ce dessein de Dieu. C'est pour ça que le pape, quand il interprète dans son encyclique sur la Vierge Marie, quand il interprète l'Annonciation, il dit que la parole de l'ange a invité Marie à rentrer dans ce dessein du Père. Et l'ange, d'une certaine manière, a invité Marie, d'une certaine manière, à accueillir ce dessein de Dieu insondable sur les hommes. Et du coup, on comprend la parole de Marie, voici la servante du Seigneur. Marie se fait servante de ce dessein. Elle y a communié par le don de Dieu, par l'invitation. Elle y a communié. Et du coup, elle peut s'en faire la servante. Et le Verbe s'est fait chair. Hein, on distingue dans notre Angélus. L'ange a annoncé la nouvelle et elle a conçu du Saint-Esprit. Elle a conçu du Saint-Esprit, en sens, elle est rentrée en communion avec le Père, de sorte que dans l'Esprit Saint, le dessein de Dieu s'est fait un en elle. Ce dessein de Dieu, elle y a communié pleinement. Et le Verbe s'est fait chair. Voici la servante du Seigneur. Et le Verbe s'est fait chair. Marie peut se faire servante parce qu'elle communie à un dessein. Oui. La maternité de Marie, dans la chair, est un service. Mais la communion que Dieu nous invite à prendre n'est pas un service. La communion, c'est un ami. Nous ne sommes pas des serviteurs quand nous contemplons, quand nous communions au dessein de Dieu, quand nous participons à la révélation. Nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes en communion, nous sommes à la même table, nous sommes des amis. Cessons de nous essuyer les pieds sur le paillasson. Quelqu'un que nous connaissons bien. La révélation, je ne peux pas y communiquer, ni communier, si je ne rentre pas, si je ne prends part. Je ne peux pas y communier si je la regarde de loin, c'est pour un autre, c'est pas pour moi. Bon, alors on se donne à 2 minutes, d'accord. Tu m'as coupé le sifflet là. Mais là, vous voyez, il me semble que c'est important de comprendre ça, que notre communion dépasse, est antérieure à tout service, à toute annonce. Notre vie chrétienne est antérieure à toute œuvre. Ça, c'est quand même dit très clairement. Hein, c'est la communion, c'est rentrer en communion avec lui. Et recevoir. Et se laisser recevoir à sa table. Voilà la vie chrétienne. Ça a des conséquences dans notre vie, c'est clair, ça a des conséquences. Je ne peux pas me nourrir à la table sans, du coup, attraper les mœurs de Dieu. C'est sûr, ça a des conséquences. Mais c'est second. Ce qui est premier, c'est de participer au dessein de Dieu. C'est de communier à ce dessein. Mais de communier, c'est d'écouter ce secret, de le faire nôtre. Et à notre tour, de recevoir ce secret pour y communier. Alors, nous pourrons nous présenter, voici la servante du Seigneur. Hein. Alors, on pourra répondre. Alors, on se donne jusqu'à moins le quart. Il est donc à peu près moins 25, pas tout à fait.
liées entre elles, de sorte que les œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire du salut manifestent et confirment la doctrine et les réalités restent signifiées par les paroles, tandis que les paroles proclament les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. Alors, d'abord, un terme. Cette révélation, elle se fait selon une économie. Cette économie de la révélation. L'économie, economia, c'est l'organisation. Le sens premier d'économie, ça serait comme l'économie du corps humain, si vous voulez. Hein ? L'économie du corps humain, l'ordre qu'il y a entre les membres de ce corps. Cet ordre, c'est une économie. Je dirais, l'économie de la révélation, c'est que cette révélation se fait dans le temps selon un ordre. Cet ordre, c'est l'économie. La révélation de Dieu se manifeste selon un ordre, un ordre de sagesse. Alors, cette économie de la révélation, donc cet ordre s'effectue par des actions et des paroles intrinsèquement liées entre elles. Donc, c'est pas seulement des paroles. C'est d'abord des actions. Le propre de la révélation, c'est que c'est Dieu qui agit. Et je crois très important que notre vie chrétienne, c'est une vie qui répond à des actions de Dieu, où Dieu rentre dans notre histoire. Pas simplement dans celle de nos premiers parents, dans celle d'Abraham, mais dans nos histoires à nous, là. Dieu rentre dans notre histoire. Il y a des actions. Alors, cette économie de la révélation, la manière dont Dieu se révèle, c'est selon une économie, c'est-à-dire selon un ordre. Un ordre de quoi ? Eh bien, d'action et de parole. De telle sorte qu'action et parole sont intrinsèquement liées. Comment ? De sorte que les œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire du salut, tiens, voilà un terme qu'il faudra regarder, manifestent et confirme la doctrine et les réalités signifiées par les paroles, tandis que les paroles proclament les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. Alors, il y a les opéras, les œuvres. De telle sorte que les œuvres accomplies par Dieu, comment ? Où ? Dans l'histoire des hommes. Alors on met dans l'histoire du salut. Je vais revenir. Les œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire du salut. Ce n'est pas des œuvres extérieures à nous. C'est des œuvres qui sont dans une histoire. Manifeste et confirme la doctrine et les réalités signifiées par les paroles. Il y a des œuvres et des paroles. Ces paroles, elles ont une signification. La traduction dit sens. Mais la signification, le Concile distingue. Il distingue doctrine et réalité, au pluriel. Ces paroles, elles désignent des réalités qui ne sont pas ses œuvres. Dieu agit dans le monde et dans l'histoire du salut. Abraham, jusqu'à Marie, dans le Christ, rentre dans l'histoire, ça ce sont des œuvres. Mais ces œuvres seront manifestées, et d'abord manifesteront la doctrine et les réalités signifiées ou annoncées par les paroles, hein, de sorte que les œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire manifestent et confirment la doctrine et les réalités signifiées par les paroles, tandis que les paroles proclament les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. Les paroles proclament, manifestent les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. Parce que derrière, c'est Dieu qui agit, et ces réalités, c'est Dieu. C'est le mystère de Dieu. Ça, c'est l'action des œuvres de Dieu. Dieu agit et Dieu parle. Mais quand il parle, il nous enseigne. Il nous donne un enseignement, doctrina. Il nous dit quelque chose. Mais en même temps, il nous désigne des réalités mystérieuses qui viennent de son mystère. C'est pas simplement ces réalités que ces œuvres-là, ces paroles qui sont données au cours de l'histoire du salut, elles vont éclairer les œuvres que Dieu fait quand il a passé la mer rouge. Quand il a fait passer la mer rouge. Ça, c'est une œuvre. On dira les magnalia, les merveilles. Les merveilles de Dieu dans son peuple. Il est rentré dans l'histoire des hommes. En rentrant dans l'histoire, il nous dit quelque chose. Mais ses actes sont obscurs s'ils n'étaient pas éclairés par des paroles. Et la parole ne va pas simplement nous donner une doctrine. La parole va nous inviter, en référence aux œuvres, à regarder des réalités mystérieuses. À rentrer dans l'arès, à travers les réalités, de découvrir le mystère de la vie divine à travers les réalités spirituelles de notre vie. Est-ce que c'est clair ça? Le concile est extrêmement précis. Je crois très important de revenir là. Cette économie de la révélation, voilà la manière dont Dieu agit. Il agit avec des œuvres et des paroles. Voilà cette économie, cet ordre. Voilà comment Dieu agit quand il se révèle. Cette économie de la révélation s'effectue par des actions et des paroles qui sont intrinsèquement liées entre elles. De sorte que les œuvres accomplies par Dieu actions et paroles gestis, la geste de Dieu. On pourrait dire ça, la geste. Vous savez, pour raconter l'histoire de Roland à Roncevaux, bon, et bien, la geste, hein, c'est-à-dire les œuvres merveilleuses, hein, les actions, gestis, les œuvres, les actions et les paroles intrinsèquement liées. De sorte que les œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire du salut manifestent et confirment la doctrine et les réalités signifiées par les paroles. Et il y a des choses de la parole de Dieu que je ne peux comprendre que grâce aux œuvres. Pas pour rien que le Christ fait des miracles. Mais les miracles sont des œuvres. Et d'une certaine manière, ils ne sont que des signes. Si vous ne comprenez pas la réalité qui est signifiée, la res, grâce aux paroles qui vous réfèrent à l'enseignement et aux réalités, est-ce que ce n'est pas trop difficile ça? Non. Tandis que les paroles proclament les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. D'une certaine manière, nous devons toujours, quand nous voulons accueillir le mystère de la parole de Dieu, la référée, la parole de Dieu, c'est les paroles, c'est pas la parole, c'est le verbe. On va voir tout de suite. Les paroles, les réalités, qui sont les signes d'une réalité, grâce à cette interaction qu'il y a entre les œuvres et la parole. Dieu n'est pas un Dieu qui parle, Dieu est un Dieu qui agit et parle. Les actions sont premières, les paroles, l'action de Dieu est première. Les paroles vont comme... Première, il y a un ordre, si vous voulez, fondamental. On ne peut pas séparer parole et action. Et c'est absolument indispensable de relier l'une à l'autre, les unes aux autres. Puis cette troisième phrase, troisième partie, par cette révélation, la vérité la plus profonde, aussi bien sur Dieu, vous voyez, la vérité, ça reste. La vérité. Aussi bien sur Dieu que sur le salut de l'homme, c'est-à-dire cette action de Dieu dans l'homme, ce dessein de Dieu sur l'homme, resplendit pour nous dans le Christ. D'une certaine manière, le Christ, il est gestis verbisque. Il est les œuvres et les paroles. Hein? Le Christ, il est... Vous voyez comment le concile dira, par cette révélation, la vérité la plus profonde, aussi bien sur Dieu que sur les hommes, resplendit pour nous. C'est-à-dire, il y a comme une acmé, il y a comme un sommet. Dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de la révélation. Il est à la fois celui... par qui Dieu se révèle et en qui Dieu se révèle. Il est à la fois le médiateur de la révélation et la révélation. Le Christ est la révélation parce qu'il est les œuvres et les paroles. Ça va? On va vite parce que je suis un peu en retard. Mais vous voyez, ce qui est important de comprendre, Dieu rentre dans l'histoire des hommes. Voilà l'histoire du salut. D'une certaine manière, il a pris l'initiative. Il est rentré dans la vie d'Abraham. Va, quitte ton pays, ta parentèle. Ça, c'est... Il faut qu'Abraham parte. L'histoire d'Abraham change. Ça, c'est sûr. Hein? Il y a une entrée de Dieu dans sa vie. Et ces paroles vont, d'une certaine manière, éclairer vers le pays que je te donnerai. Voilà. Où Dieu rentre dans l'histoire des hommes. L'histoire du salut, c'est pas la révélation. C'est Dieu communiqué. La révélation, c'est pas l'histoire du salut. L'histoire du salut, c'est la révélation au cours de l'histoire de l'humanité. C'est cette économie de la révélation qui est geste et parole, qui en plus se déroule dans le temps. Hein? Vous voyez, Dieu, quand il se révèle par des actions et des paroles. Mais ces actions et ces paroles vont rentrer dans l'histoire des hommes, de sorte qu'il y a un chemin, il y a un devenir, il y a un devenir, hein, jusqu'au Christ. Avant le Christ, hein, d'Adam, jusqu'au Christ et jusqu'à nous. Et puis, et après, hein, grâce à Dieu. Eh bien, vous voyez, Dieu est rentré dans l'histoire des hommes, on va voir, numéro d'après. Rentré dans l'histoire jusqu'au Christ. Et là, la révélation est comme achevée, puisque elle resplendit pour nous dans le Christ. La révélation est comme achevée. Ça va ? Difficulté ? Donc, l'histoire du salut, c'est l'histoire des hommes qui est comme marquée par des entrées de Dieu, éclairées par des paroles de Dieu dans les hommes, chez les hommes, au cours de cette histoire. Vous voyez, parce que vous diriez, mais concrètement, quand Dieu est venu et puis il m'a dit coup de pied sur la tête, va, quitte ton pays, ta parenté, à chacun de nous, il le dit. N'est-ce pas ? Alors, ça rentre dans l'histoire du salut ou pas ? Mais vous n'avez pas eu de parole officielle. Il y a une parole qui va être vôtre, qui va être pour vous, qui va être éclairée, ça. C'est la manière dont on lira la parole de Dieu. Mais l'histoire du salut, c'est cette histoire des hommes qui, comme on va le voir, qui est éclairée par les œuvres et les paroles que Dieu a adressées à l'humanité. Lui-même, que lui-même a adressé à l'humanité. Alors, j'insiste pas sur la dernière phrase parce que le chapitre 4, le numéro 4, va l'expliciter entièrement. Le Christ comme sommet de la révélation. Donc, notre. Alors, on a parlé de l'histoire, Il ne faut pas dire, d'une certaine manière, il ne faut pas dire le salut, et ce que nous faisons à propos de Pannenberg, qui réduit la révélation à l'histoire. C'est très différent. Parce que le Christ, il transcende l'histoire. Les œuvres sont dans l'histoire, mais elles sont. L'agent transcende l'histoire. C'est pas simplement quand Dieu est passé dans la mer Rouge, c'est vrai, c'est rentré dans l'histoire des hommes. Mais il y a une action qui transcende cette histoire. L'incarnation, c'est sûr, c'est un homme, mais il est Dieu et il transcende l'histoire. Donc je ne peux pas réduire la révélation à l'histoire comme le ferait la théologie moderne. Il n'y a plus que l'histoire. Non, c'est dans l'histoire du salut. Et ce concile a fait exprès de distinguer la révélation dans l'histoire du salut. C'est pour bien comprendre, si vous lisez les discussions du concile, et le vocabulaire est exprès dans l'histoire, et ce n'est pas par l'histoire. Souvent on veut nous faire croire que le salut est par l'histoire, comme s'il était immanent à nous, il suffit que nous vivions notre salut. Non. Le salut, c'est la révélation qui rentre dans l'histoire des hommes. Alors là, elle devient une histoire du salut, mais une révélation qui est bien sûr des œuvres et des paroles. Alors je prends le numéro 3 qui va expliciter. Le numéro 3 et le numéro 4 vont dire, évidemment, puisqu'il y a un ordre, il y a une préparation et un terme. Alors, numéro 3, la préparation de la révélation ultime, qui est déjà une révélation, et le terme qui est dans le Christ. Dieu créant et conservant toute chose par le Verbe, offre aux hommes un témoignage perpétuel de lui-même dans les choses créées. Et voulant ouvrir la voie du salut d'en haut, il s'est en outre manifesté lui-même à nos premiers parents dès le commencement. Et après leur chute, ayant promis une rédemption, il les releva dans l'espérance d'un salut et sans interruption pris soin du genre humain afin de donner la vie éternelle à tous ceux qui cherchent le salut par la constance dans le bien. Sans interruption, depuis Adam, sans interruption, Dieu a pris soin des hommes. Sans interruption. N'attendez pas Abraham. Au temps voulu, il appela Abraham pour faire de lui un grand peuple, auquel, après les patriarches, par Moïse et les prophètes, il apprit à le connaître, lui, seul Dieu vivant et vrai, Père provident et juste juge, et à attendre le Sauveur promis, et ainsi, au cours des siècles, il prépara la voie à l'Évangile. Donc, si vous regardez bien, plutôt qu'Adam, hein, il y a la création. La création et nos premiers parents. Par la création, Dieu, nous dit saint Paul, et d'ailleurs l'Ancien Testament aussi, saint Jean, il cite ici saint Jean, en créant et conservant toutes choses, offre aux hommes un témoignage perpétuel de lui-même dans les choses créées. La création révèle une sagesse qui n'est autre que le Verbe. Hein? Tout fut par lui, dit saint Jean dans le prologue. Et sans lui, rien ne fut de ce qui fut. Tout a été fait par lui. Donc tout a été fait selon la sagesse du Créateur. Donc les œuvres rendent témoignage de leur Créateur, de leur auteur. La création rend témoignage à Dieu. Donc d'une certaine manière, Adam et Ève, dans leur justice de l'origine, quand ils ont été créés, ils ont été créés de sorte que tout l'univers leur intelligence, par leur intelligence et leur amour, et ils pouvaient référer tout l'univers à leur Créateur. Et d'une certaine manière, laisser parler la création de leur Créateur. La création leur parlait, la création, non seulement la création, mais ce qu'ils sont eux-mêmes, ce qu'ils étaient eux-mêmes, leur parlait du Créateur. La création, comme il dit, offre aux hommes un témoignage perpétuel. Ce témoignage, il demeure. Ce témoignage demeure. On verra tout à l'heure ce qu'il est dit de ce témoignage. Et voulant ouvrir la voie du salut d'en haut, il s'est en outre manifesté lui-même à nos premiers parents dès le commencement. Donc vous voyez tout de suite le salut d'en haut. C'est comme s'il y avait un salut d'en bas et un salut d'en haut. L'homme a ce qu'il faut pour vivre, c'est son salut d'en bas, pour être heureux. Adam avait tout ce qu'il fallait pour être heureux dans sa nature. Mais Dieu l'a invité à un salut d'en haut, qui est un salut gratuit, qui est un don de Dieu. Donc, il a invité nos premiers parents, je dis Adam, hein, mais mettez-y Ève aussi, hein, on ne va pas se séparer. Hein, il les a invités à accueillir un salut qui est un pur don, qui est le salut dont on a parlé tout à l'heure. Qui est d'être des fils, qui est donc un salut par la grâce. Et il les a, le langage du concile, et voulant ouvrir la voie du salut, il s'est en outre manifesté lui-même à nos premiers parents dès le commencement. On peut se demander quand. Quand est-ce que, à nos premiers parents, il les a invités à accueillir un salut d'en haut? Vous pouvez vous poser la question si ce n'est pas l'arbre défendu. Parce que le salut d'en bas, c'est que tout est dans nos prises. Le salut d'en haut, il faut le recevoir gratuitement. Prétendre le prendre de nous-mêmes, c'est l'orgueil. Je prétends pouvoir communier à la vie de Dieu par mes propres forces. Ça a été le péché d'Adam. Prétendre que le salut d'en haut, qui est gratuit, qui est bien au milieu du jardin, il puisse s'en servir, se servir directement. Prétendre qu'il est dans ses propres prises, alors qu'il est un don gratuit. Après leur chute, ayant promis une rédemption, il les releva dans l'espérance du salut. Donc il y a eu la grâce et le péché. Hein. Et ce n'est pas simplement une rupture, c'est une rupture dans l'espérance. Vous voyez, l'appel demeure. L'appel de la grâce demeure à cette vie d'en haut, puisque c'est dans l'espérance. Il les releva dans l'espérance d'un salut et sans interruption prit soin du genre humain afin de donner la vie éternelle à tous ceux qui cherchent le salut par la constance dans le bien. Donc, c'est pas simplement il veut donner la vie éternelle à tous ceux qui cherchent le salut par la constance dans le bien. Donc, d'une certaine manière, la grâce est donnée à tous les hommes qui cherchent le salut, c'est-à-dire à être sauvés, quelque chose de gratuit, le salut, c'est Dieu qui agit. Comment ? Comment cherche-t-il ? Par la constance dans le bien. Et quand on se pose la question, mais les autres religions, ceux qui ne connaissent pas le Christ, où est-ce qu'il en est ? Le Concile est extrêmement explicite dans plusieurs passages. Tout homme de bonne volonté, c'est l'annonce de Noël, paix aux âmes de bonne volonté. C'est pas paix aux âmes qui croient au Christ Jésus vivant, mort et ressuscité. C'est d'abord paix aux âmes de bonne volonté, c'est-à-dire qui cherchent à vivre le salut, à accueillir le salut. Comment on le cherche-t-il ? En se soumettant à la loi de leur conscience, en cherchant à faire le bien, en cherchant à faire le bien, par la constance dans le bien, la persévérance dans le bien. Et là, on cite les Romains. C'est un salut qui est offert à tous ceux qui cherchent dans la constance, qui dure dans la constance. Continue l'histoire, au temps voulu, hein, Abraham. Saint Thomas dit que ça a été très très long, ce temps-là. C'est vrai, parce qu'on se demande, entre Adam et Abraham, vous y mettez combien de temps ? Combien d'hommes ? Hein ? Et ceux-là, sont-ils sauvés ? Alors, c'était la question. Que normalement, à haute vitesse, à haute initiative, soit vous êtes dans la vie, soit vous êtes avec le Christ, vous êtes sauvé, soit vous êtes dans l'église, vous êtes sauvé, soit vous ne l'êtes pas, tant pis. Mais là, il y a un temps immense. Et Abraham dit qu'il a fallu, Saint Thomas dit qu'il a fallu beaucoup de temps. Pourquoi est-ce qu'il a fallu du temps? Parce qu'il a fallu que l'homme comprenne qu'il était incapable de se sauver tout seul. Et vous faites attention dans la lecture de la Genèse, vous voyez, si vous lisez de façon cursive, Adam, il a vécu je ne sais pas combien d'années, puis si vous regardez, c'est décroissant. De temps en temps, il y a eu des pivots, puis Abraham, ça va être 100 et quelques années, je crois. Mais après, ça ne dépasse pas. Mais vous avez eu Mathusalem, qui est pas parmi les plus âgés. Hein. Et, non, si vous regardez dans l'Écriture, c'est pas le plus âgé. Si ? Ah, alors, autant pour moi. Mais Adam, il me semblait que... Non, vous vérifierez. Bon, mais c'est pour dire, il y a eu beaucoup de temps, parce que c'est petit à petit que la nature humaine s'est corrompue. Pour donner une image, que l'homme, de plus en plus, le mal s'est aggravé. Il y avait encore l'œuvre qui était relativement parfaite, qui a tenu le coup un petit peu, n'est-ce pas ? Et puis que petit à petit s'est dégradé. C'est l'expérience qu'on fait dans notre vie, ça. Si on n'est pas attentif, le péché nous blesse, on tient encore debout. Mais si on le laisse, ben, au bout de certains temps, à la cathédrale, il n'y reste plus rien. Ben, c'est ça. L'humanité a dû connaître un état de décrépitude pour qu'elle ne puisse pas faire autre chose que de dire « Mais on ne peut plus s'en sortir tout seul. » Quelquefois dans notre histoire, à nous, il faut que le Seigneur agisse comme ça. On est tellement fort, solide, en santé, capable de, qu'il faut que tout ça, pour qu'enfin, au terme de notre vie, là, quand la décrépitude est annoncée, non, début de conversion, on enfin en écoute. Au temps voulu, il appela Abraham pour faire de lui un grand peuple, auquel, après les patriarches, par Moïse et les prophètes, vous vérifiez, vous, il est parti d'Abraham. C'est pas pour rien, parce qu'Abraham, s'il est le père des Juifs, parce qu'il est le père d'Isaac, il est aussi le père des Arabes, hein, les musulmans. N'est-ce pas ? Parce que c'est très important de comprendre ça, c'est que c'est. Ils sont tous pris dans cette histoire. Et le concile a fait exprès de prendre Abraham, pas Moïse. C'est très important. La révélation, elle ne part pas de Moïse. Elle est partie d'Abraham. Afin de donner. Bon, autant voulu l'appeler Abraham pour faire de lui un grand peuple, auquel après les patriarches, par Moïse et les prophètes. Alors c'est sûr, il a choisi. Il a choisi Isaac, par Isaac, le peuple juif, le peuple d'Israël, qui sera le peuple, un grand peuple auquel, par les patriarches, par Moïse et les prophètes, il a appris à le connaître. Donc, c'est, Dieu va choisir un peuple. Voilà une médiation. Abraham, juif, un peuple. Il choisit un peuple dans le monde entier. C'est un peuple. Un peuple auquel il donnera sa loi et ses prophètes. Un peuple qui sera signe dans le monde, dans les nations. Il est envoyé aux nations. Si vous lisez les prophètes, vous verrez ça. Auquel, après les patriarches, par Moïse et les prophètes, il a appris à le connaître. Lui, seul Dieu vivant et vrai, Père provident, juste juge, et à attendre le Sauveur promis, ainsi et ainsi au cours des siècles, il prépara la voie à l'Évangile. Donc, il se passe un fait particulier, c'est que c'est dans le peuple d'Israël que va se concentrer la révélation, au moins la préparation évangélique. C'est dans le peuple d'Israël, dans le peuple juif, pour que ce peuple accueille le Christ. Hein. Et ainsi, au cours des siècles, il prépara la voie à l'Évangile. Pour nous, la question, c'est la place de tout ce devenir jusqu'à l'Évangile. Est-ce que c'est pour nous ou est-ce que c'est plus pour nous ? Parce que nous, on est là, n'est-ce pas ? Est-ce que ça nous concerne quelque part, ou pas du tout? Est-ce que cette pédagogie de Dieu qui a pris tellement de temps pour former l'humanité et l'inviter dans le peuple d'Israël à accueillir le Messie, et il faut voir comment il l'accueillit, hein, est-ce que cette éducation, je peux m'en priver? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que, bon, moi, je suis à l'âge de l'humanité dans le Christ. Et je n'ai plus besoin de me servir de cette pédagogie de Dieu.
Là, je termine le numéro 4, là. Après avoir, de fait, à bien des reprises et sous bien des formes, parlé par les prophètes, on prend l'épître aux Hébreux, n'est-ce pas ? Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il envoya, en effet, son Fils, c'est-à-dire le Verbe éternel, qui éclaire tous les hommes, pour qu'il demeure parmi les hommes et leur fasse connaître les profondeurs de Dieu. Pour qu'il demeure. Il est envoyé pour qu'il demeure. C'est pas du passé. C'est pour ça qu'on est dans la fin des temps. Parce que le Christ demeure. Il n'y a plus de temps, d'une certaine manière, dans la révélation. Il est là. Jésus-Christ, donc, parole faite chair, homme envoyé vers les hommes, prononce les paroles de Dieu et consomme l'œuvre salutaire que le Père lui a donné à faire. C'est pourquoi lui-même qui le voit, voit aussi le Père. Par toute sa présence et la manifestation de lui-même, par ses paroles, ses œuvres, par ses signes et ses miracles, mais surtout par sa mort et sa glorieuse résurrection d'entre les morts, par l'Esprit de vérité enfin envoyé, achève, c'est fini, la révélation en l'accomplissant et confirme par témoignage divin que Dieu est avec nous pour nous libérer des ténèbres, du péché et de la mort et nous ressusciter pour la vie éternelle. Donc, il y a toujours deux choses, hein. Salut et vie. Le mystère du Christ, il est à la fois salut, il sauve du péché, mais à la fois vie éternelle parce qu'il donne une vie nouvelle, la vie des fils. Donc, quand nous parlons du sauveur, nous l'entendons dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de celui qui nous sauve de notre péché. Il n'y a plus de péché qui n'est d'obstacle. Et celui qui nous donne une vie nouvelle, vie qui est vie de la résurrection, parce que vie sur laquelle la mort ne peut rien, qui est la vie de Dieu, qui est la vie du Verbe, qui est la vie du Fils, qui est la vie. Donc Dieu nous a donné la vie dans le Christ. Parce que l'homme à qui Dieu s'est révélé, l'homme, c'est une réalité d'en bas. Il est d'en bas. Il est de la terre. À cet homme, Dieu l'a convié à une vie d'en haut. C'est la vie, celle que j'appelle la vie éternelle. De sorte que c'est bien la vie, ma vie. C'est moi qui vis de la vie éternelle. Mais c'est pas... C'est une vie qui vient par un don de la grâce. C'est Dieu qui me donne cette vie. Il me la donne de sorte que c'est moi qui vis. Mais c'est pas ma vie d'en bas. C'est pas en construisant les maisons que je vis en fils de Dieu. C'est en vivant de la grâce. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai plus à construire ? Ça, c'est pas vrai. Parce que la grâce est donnée à l'homme. Il y a une nature. La grâce est une nouvelle nature, on va dire surnature, une nouvelle nature. Eh bien, la grâce est donnée à l'homme, il faut que l'homme soit homme. Donc, c'est bien de dire, moi, vous savez, ma vie, moi, c'est la vie théologale. Alors, je fais comme, avec les autres, je fais comme je peux. Hein. Il faut qu'ils supportent une mauvaise humeur, tout ce qui ne va pas. Tout ça, c'est rien, ce qui compte, c'est vivre en enfant de Dieu. Ce qui compte, c'est vivre dans la foi, l'espérance et la charité. C'est vrai, c'est vivre en fils de Dieu. Mais c'est mépriser l'œuvre de Dieu qu'il a faite à son image, qui est l'homme, de sorte qu'il ne veut pas nous sauver sans que nous soyons pleinement hommes.
sans qu'en nous, l'homme prenne toute sa dimension. L'homme d'en bas, pas le vieil homme, parce que le vieil homme, c'est l'homme du péché. Mais l'homme naturel, l'homme, son intelligence, sa volonté, son irascible, son concupiscible, son corps. Voilà, l'homme, cet homme-là, il faut qu'il soit pleinement homme. Et la grâce de Dieu ne peut que lui permettre d'être pleinement homme. Mais c'est vrai que je peux très bien être intelligent, pas avoir beaucoup de volonté, avoir un irascible insupportable, c'est-à-dire aucune vertu, être un bandit épouvantable, avoir un mépris de mon corps, être malade, infirme et tout ce que vous voulez, et pourtant vivre en enfant de Dieu. C'est vrai, je peux. On fait tous cette expérience d'une certaine limite quelque part de l'homme d'en bas, pour qu'on puisse se rassurer de l'enfant de Dieu, de l'homme d'en haut. Parce que si on était tellement riche d'en bas, on ne décollerait plus. C'était le péché de l'ange. Il est tellement parfait. Qu'est-ce que vous voulez qu'il reçoive? Quand Dieu lui a proposé une béatitude reçue, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Non, c'est schématique. Mais il me semble qu'on pense, on est souvent comme l'homme, comme l'ange. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis tellement savant. Je risque rien. Ou j'ai une telle fortune, telle richesse, telle gloire. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'ai de plus? Malheureux, ce soir même, n'est-ce pas? Il y avait son grenier à remplir. Alors, ce qui compte pour nous, c'est pas le don de la grâce, c'est vrai, mais ce qui importe, c'est de ne pas négliger l'homme. Et c'est pour ça qu'on aura toujours la nécessité des vertus. Toujours. Il faut que la personne humaine, la personne, s'épanouisse pleinement, parce qu'elle est l'épiphanie de la grâce dans le monde. L'homme chrétien, il devrait être pleinement homme pour manifester la plénitude de vie qu'il a en lui, qui n'est pas simplement une vie d'en bas, mais aussi une vie d'en haut. Bon, ça c'est l'économie de Dieu sur nous, son attention sur nous. Eh bien, dans le Christ, ça a été blessé par le péché. Il y a eu le péché. Et l'homme est blessé. Il est blessé mortellement, hein, parce que le péché a touché son âme de sorte que il ne peut même plus, dirait saint Thomas, sans la grâce, il ne peut plus ne pas pécher mortellement. Un jour ou l'autre, de toute façon, par des petites chutes, après petites chutes, un jour ou l'autre, il tombera. Alors, c'est pas possible. Sans l'œuvre de Dieu, sans le salut, l'homme ne peut que mourir. Sans le don de la grâce, l'homme ne peut que mourir. La blessure de la faute originelle est telle que sans le don de la grâce, l'homme ne peut que mourir. Ça, c'est premier. Mais ensuite, l'homme est pécheur. Non seulement il a péché, blessure du péché originel, mais il est aussi pécheur en acte. Parce que ce poids est tel qu'il tombe, qu'il a encore besoin d'être sauvé. On a besoin du pardon du Christ. Pas simplement un pardon qui regarde toute l'humanité, mais un pardon qui regarde chacun de nous. Ce qui fait que le Christ qui nous a donné la grâce doit aussi nous sauver, nous racheter, nous pardonner, nous obtenir le pardon. C'est pour ça que le Christ sera toujours et la source de la vie et le sauveur. Mais il faut bien distinguer, n'est-ce pas, l'œuvre de salut, de pardon, de l'œuvre de vie. Distinguer, mais jamais séparer, car tout est dans le Christ, comme on l'a vu, n'est-ce pas? Alors, aux prochaines rencontres, on va se peut-être, Père Jean-Marie, les... est-ce qu'on fait des...